tous, notre semaine s'achève comme toujours aux côtés des créateurs et des penseurs. À 13h50, François Sureau profitera de son escale parisienne pour évoquer André Breton et la querelle des pois sauteurs. Mais avant cela, nous continuons à parler du cinéma britannique. Et qui mieux que Ken Loach pour décrire les maux de sa société, donner à voir les oubliés, les démunis. Dans son dernier film sorti en 2019, Sorry We Missed You, Ken Loach raconte l'histoire de Ricky et son rêve d'auto-entrepreneur qui tourne au calvaire. Avec lui se raconte la précarité et la violence d'un système ubérisé qui happe l'individu, le laisse sans protection. Un cinéma engagé qui remet sur la table les crises actuelles du Royaume-Uni, du Brexit à la crise sanitaire, et y pose un regard sans compromis. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, d'abord avec Ken Loach, puis avec Ophélie Siméon, maîtresse de conférences en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Ken Loach, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que on parle de votre cinéma comme d'un cinéma social, engagé? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'un cinéma social? Est-ce que c'est comme ça que vous le qualifieriez?
Well, I guess it's true.
Oui, je pense que c'est vrai. Mais ce n'est pas la meilleure manière, je crois, de présenter mon cinéma au public. Ce que nous aimerions, c'est que les gens puissent venir voir les films avec un esprit ouvert, prêts à s'impliquer dans les personnages, de partager l'histoire, de partager les aventures des personnages, la tristesse, la joie, la comédie. Et puis d'apprendre de ces personnages, de partager quelque chose avec eux et de partager un moment avec eux. Et aussi de s'impliquer dans l'histoire. Si on précède ça avec l'idée que le film va vous apprendre une leçon, ça peut être vraiment désastreux. Franchement, je préfère aller m'amuser ailleurs. On veut vraiment impliquer les gens dans l'histoire, dans les personnages, dans les vies que l'on décrit, et en espérant que quelque chose en sorte et en émerge d'une façon ou d'une autre.
Alors, est-ce que l'idée que, selon laquelle le cinéma, Ken Loach, pourrait être aussi une expérience empathique, est-ce que c'est une idée que vous avez aussi empruntée à l'histoire même du cinéma? Dans un article, j'ai lu que vous disiez qu'il y avait un certain nombre de films qui étaient les incontournables d'un militant de gauche. Vous avez fait référence notamment à la bataille du Chili, à la bataille d'Algérie et aux voleurs de bicyclettes.
C'est possible, quelque part, le cinéma, comme la prose, c'est un médium, mais il peut servir à ça. Et on peut en faire ce que l'on veut, du cinéma. Et le cinéma peut nous faire réfléchir à nos vies, à notre existence. Il peut parler de notre histoire, de nos problèmes et de ce que l'on apprend des uns des autres. Donc oui, c'est possible, c'est une fonction possible du cinéma. Je ne sais pas si j'ai une liste de films de gauche, non. Ça me semble vraiment trop prescriptif. Mais le cinéma a un pouvoir, peut faire quelque chose. Il peut nous laisser une impression sur les choses, une opinion sur les choses, un regard sur l'injustice. Mais la question clé, c'est qu'est-ce qui se passe pour le public quand il quitte la salle? Est-ce qu'il garde quelque chose du film avec lui? Moi, en tant que réalisateur, j'ai une responsabilité. Je sais quand même, je serai responsable des images. Je sais maintenant quelque chose du cinéma. Et le public aussi sort de la salle en ayant vu quelque chose, appris quelque chose. Et il peut lui-même prendre des responsabilités. Le public peut se dire, non, je ne vais pas quitter la salle et tout oublier. Et donc, si jamais on fait ça, oui, je pense que c'est quelque chose d'important.
Ken Loach, en utilisant la fiction et non pas le documentaire pour en même temps décrire des situations qui sont empreintes d'un réalisme très important. Hein. Il y a tout un travail d'enquête fait au préalable de vos films. Cette histoire, notamment de Sorry We Missed You, l'histoire d'un chauffeur livreur qui travaille pour une plateforme est empreinte de justement de ce travail aussi de recherche fait par vous et Paul Laverty. Qu'est-ce que vous avez sur ce terrain-là, emprunté au cinéma néo-réaliste italien, qui vous permet de passer par la fiction pour décrire la réalité du monde actuel?
Tout d'abord, il faut parler effectivement de Paul, l'averti. Sur la plupart de ses derniers films, Paul a fait toutes les recherches et le travail d'investigation, parce qu'il a 20 ans de moins que moi. Et donc on en discute tout le temps. Paul, c'est lui qui est sur le terrain. Et ce que je filme, c'est finalement ce qu'il écrit. Et donc, je dois absolument respecter ce travail et je dois absolument lui rendre hommage. C'est nécessaire vraiment pour le film. J'ai la chance de travailler avec Paul. C'est un scénariste merveilleux. Le cinéma néo-réaliste italien est très important pour nous parce que c'est là que les sujets ont vraiment été mis en avant. C'est là que il y a eu un vraiment choisi le sujet social comme étant le cœur du cinéma. Que le cinéma n'a pas besoin d'être plein de glamour, c'est pas besoin de parler de show business, ça peut parler des gens vrais, des gens de la classe ouvrière. Et ça, c'était très important. Aussi, il y avait une perspective politique dans ces films. On y parle d'injustice sociale, de bataille, de lutte. Et c'est aussi quelque chose d'important que le néo-réalisme a apporté. Et ça a eu une influence énorme sur moi dans les années 60. Des films très humains, très modestes, avec une réelle affection pour les gens que l'on filme. Une chaleur, une sensibilité, quelque chose, on partage leur humanité, c'est ça que fait ce cinéma-là. Et c'était vraiment une très grande influence. Mais on a des influences quand on est jeune. Plus tard, il faut travailler votre propre façon de faire des films, de raconter une histoire avec des images, avec des dialogues, avec des personnages, avec des conflits. Et après, vous vous retrouvez tout seul. Les influences, elles sont là au début. Mais très vite, il vous faut trouver votre voie. Et c'est une décision collective que vous faites avec votre scénariste et avec toute l'équipe.
On va vous faire écouter un extrait du voleur de bicyclette de Vittorio De Sica.
Let's listen to a sound clip taken from Bicycle Thief.
Pietro, prendi a zambe e va a Montesacro, aspettamela. Ma che sta a fa? Muovete!
Ken Loach, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est la toute fin du film, hein, le moment où le père Antonio vole un vélo qu'on lui a mis, on lui a lui-même volé un vélo au début du film, et cette fin un peu tragique où il devient à son tour le voleur. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot de ce film?
Maybe you recognize the very last scene of the film where the father robs a bicycle. He was robbed of his own bicycle before, and it's quite tragic to see him becoming a thief himself. Did you recognize this scene? Can you tell us something about it?
It's a long time since I've seen the film.
Je n'ai pas vu ce film depuis longtemps, et je dois dire que d'entendre...
It's a style of soundtrack that we would never...
D'entendre ce son, je me dis que ce n'est pas du tout comme ça que l'on fait du son comme ça. Cette musique très mélodramatique, on n'utiliserait pas ça aujourd'hui, je crois. Ce qu'on a retenu de ces films, de ces cinémas italiens des années 50 et 60, c'est l'idée que on peut mettre au centre de l'écran la classe ouvrière. Et que la moralité, quelque part, dépend de considérations politiques et économiques. Et que quelque part, il faut bien respecter la bicyclette de tout le monde. Ce sont des grandes questions politiques, sociales. Mais le style de son que l'on a entendu là, c'est quelque chose de différent de ce que l'on ferait aujourd'hui. Aujourd'hui, il me semble qu'on est plus économe, qu'on est plutôt plus discret dans les effets. Et on n'utilise pas de musique très mélodramatique. C'est l'époque qui a changé. Et je ne pense pas qu'un film avec ce genre de dramaturgie dans le son fonctionnerait aujourd'hui. Les films, ils sont de leur époque, comme la peinture, comme la littérature. Et c'était il y a 70 ans et c'était très nouveau, mais aujourd'hui, on ferait autrement.
Alors, ce que l'on retrouve en revanche, c'est la simplicité de l'intrigue et la proximité à la fois avec les gens qui sont filmés, cette classe populaire en difficulté, et la manière de filmer ces gens, c'est-à-dire avec une distance plutôt bienveillante, assez proche, comme si on vivait l'expérience de ces personnages. C'est aussi, je crois, votre manière de faire, Ken Loach, d'accompagner par la caméra l'expérience de vos personnages.
Oui, je l'espère en tout cas. Que j'essaie aussi de partager les dilemmes, l'humanité de ces personnages, de les montrer sous une lumière pleine d'empathie, pas toujours critique. Il faut aussi, cela dit, de l'objectivité. Il ne faut pas être trop sentimental, mais effectivement être un observateur sympathique qui est dans un coin de la pièce et qui essaie de comprendre ce qui se passe aux gens, dans leur vie, dans les circonstances, dans les choix qu'ils doivent prendre, essayer de les comprendre. Et c'est ça simplement ça qu'on peut faire. On peut peut-être pas complètement toujours les comprendre eux, mais comprendre la pression sociale, la pression des structures économiques autour d'eux, et qui les oblige de faire des choix extrêmement étriqués.
Est-ce que pour vous l'engagement Ken Loach, ce n'est pas simplement le sujet cinématographique en lui-même, c'est aussi la manière de le faire, de le fabriquer? Par exemple, vous parliez de l'enquête tout à l'heure, le fait de se renseigner, de mettre en scène des acteurs soit peu connus, soit des gens qui ne sont pas des professionnels et qui viennent directement du contexte social ou professionnel que vous souhaitez dépeindre. C'est aussi dans ces aspects-là qu'il y a un engagement dans le cinéma.
Là aussi, j'espère que vous avez raison. J'aimerais effectivement le penser. Mais on a une confiance, on a un contrat de confiance avec le public. On essaie de raconter des histoires qui soient plausibles. Mais là, il faut quand même aussi raconter l'histoire et la vérité de l'histoire. On ne peut pas utiliser des techniques très réaliste de cinéma pour dire un mensonge. Il faut effectivement savoir des faits et être très rigoureux comme Paul l'est dans les scénarios. Ce que l'on met à l'écran, ça ne peut être que des vérités, des choses que vous savez être justes. Et c'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup en amont pour savoir ce qu'il en est du sujet et que ce que l'on dit est authentique. Et puis les conséquences politiques, les implications deviennent assez claires, parce que dans Sorry We Miss You, le dernier film, on voit ce que c'est que le travail d'une femme qui s'occupe de ces gens. Elle s'occupe de vieilles personnes et elle s'occupe d'elles au quotidien, elle les lave, elle les nourrit, on voit vraiment quel est son travail. Et pourtant, elle est payée un salaire de misère et elle peut perdre son travail du jour au lendemain. Elle travaille des heures et pourtant ne peut pas gagner assez d'argent pour pouvoir s'occuper de sa famille comme il faudrait. Et dans l'époque où on est aujourd'hui, dans cette crise que nous traversons, les politiques disent « Vous êtes merveilleux, vous êtes des héros ». Vous faites un travail fantastique. Bravo, merci, merci. Et ils les applaudissent. Vraiment, ils les applaudissent. Et pourtant, ils les condamnent à travailler dans des conditions pauvres. Et ils les condamnent à travailler dans des conditions lamentables. Et donc ce film, il voulait montrer aux gens cette réalité, sans que ce soit un pamphlet non plus, sans que ce soit didactique, de laisser l'histoire raconter ça.
Est-ce que finalement, Ken Loach, les cinéastes se retrouvent face au même problème, par exemple, que les peintres? Francis Bacon disait que pour montrer le réel, il fallait complètement le réinventer pour qu'il devienne visible. Est-ce que c'est la même chose pour le cinéma, pour finalement représenter ces réalités sociales que vous décrivez dans vos films? Est-ce qu'il faut être démonstratif? Comment est-ce que vous décrivez ce réel? Comment vous le représentez à l'écran? On parlait, par exemple, du fait d'utiliser des gens qui ne sont pas des acteurs à l'écran. Ça, ça fait partie du processus?
Il y a deux réponses. D'abord, comment est-ce qu'on crée une illusion de réalité au cinéma, avec le son et l'image? Et ça, ça tient beaucoup aux personnages et à qui vous engagez pour incarner ces personnages. Parce que la caméra, elle rentre, elle peut vous montrer les pores de votre peau et elle peut vous montrer la vie que vous avez vécue, que le personnage a vécue auparavant. Et donc, quelque part, tout film est un documentaire sur les gens qui interviennent dans le film. Et donc, il faut trouver des gens auxquels vous croyez absolument, comme dans un documentaire. Et souvent, effectivement, ça veut dire travailler avec des non-professionnels, mais pas toujours. Il y a de vraiment très bons acteurs qui ont des qualités. C'est un mélange à réussir. Je dirais c'est 50-50. Des acteurs expérimentés et des acteurs inexpérimentés. Je préfère inexpérimenté, expérimenté plutôt que professionnel, non professionnel. S'ils sont dans le film, c'est qu'ils sont acteurs. C'est ça, être acteur. C'est vous faire croire quelque chose qui existe, qui est de la fiction, et vous faire croire. Si vous y arrivez, alors c'est bien que vous jouez la comédie, que vous êtes acteur. Donc c'est leur expérience plutôt qui fait leur différence. Mais l'essentiel en travailler avec ces acteurs inexpérimentés, c'est de les faire entrer dans l'histoire, dans le film, et de leur donner la possibilité d'être extrêmement plausible, extrêmement sensible en étant eux-mêmes, en leur permettant d'être eux-mêmes. Il faut qu'ils en aient la capacité, il faut qu'ils puissent savoir se projeter dans une scène et croire en ce qu'ils font et créer des interactions avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve par les auditions, par les improvisations. C'est un processus très long. Aussi, il faut qu'ils soient éloquents. Il faut que les gens puissent parler. Il faut qu'ils aient une facilité avec la langue. Il leur faut un rythme de parole, une précision dans l'utilisation des mots. Et pas forcément de la langue de la petite bourgeoisie ou de la classe moyenne, mais leur langue à eux. Et il faut qu'ils puissent échanger avec les autres, avec cette langue. Et aussi être capable de travailler à partir des dialogues qu'écrit Paul, parce que c'est quand même beaucoup ce qu'il a écrit. Il y a des choses spontanées qui viennent, bien sûr, qui arrivent, et qui arrivent vraiment, qui surgissent dans le moment du tournage. Et il faut aussi les garder, ces moments-là. Il faut pouvoir garder ces moments d'improvisation. pour cela. Et puis, la question du regard, la question de la lumière, la question du cadre, c'est très important, la façon dont on réfléchit à toutes ces conditions-là. Il faut effectivement faire une sorte de réinvention. Parce qu'il faut quelque part être plus simple. Comme l'intérieur d'une pièce, il faut qu'il soit plus simple que dans la réalité. Les couleurs doivent être simplifiées. Parce que dans la réalité, il y aurait beaucoup de couleurs vivantes, beaucoup de choses, de couleurs fortes, si vous voulez. Ce serait visuellement trop fort. Donc, il faut parfois, peut-être, choisir des choses qui sont juste, réelles, mais aussi, il faut créer une image qui reste et qui tienne. Donc voilà comment, quelque part, on gère tous ces éléments de réalité pour quand même en faire un résultat qui soit plausible et qui fonctionne dans l'histoire que vous voulez raconter. L'autre chose à dire, c'est l'histoire que vous racontez. Quel personnage? Quel est le centre du dilemme? Quelle est l'essence de l'histoire? Et ça, il s'agit de trouver toujours une histoire à raconter qui soit très simple en surface, mais qui ait un conflit interne dans son cœur, qui illumine les sujets, ce que vous voulez dire sur la société, ce que vous voulez parler, ce que vous voulez dire sur la société. L'histoire doit être vraiment être le reflet et montrer, donner de la lumière sur le sujet et les conflits que nous traversons tous. Essayez de trouver quelle est l'histoire essentielle, quel est le conflit qui est dans le cœur du personnage, comment il s'exprime. Et c'est quelque chose qui doit rentrer dans un cadre plus large, qui parle effectivement des conflits qui traversent le cœur de toute la société.
On a le sentiment que vous avez déjà une très longue carrière cinématographique, Ken Loach, et pourtant vos films semblent coller de plus en plus aux réalités socio-économiques de la Grande-Bretagne en particulier, mais pas exclusivement, il y a aussi l'Écosse et l'Irlande. Comment est-ce que, avec le temps, alors que ces tensions économiques et sociales changent malgré tout, en tout cas changent de sujet, d'objet, comment est-ce que ces sujets continuent à remonter à vous? Comment est-ce que vous vous trouvez toujours connecté à cette ère du temps, alors que vous aussi, vous avancez dans l'âge?
It's impossible not to be connected.
Mais c'est impossible de ne pas être déconnecté de la réalité. Il faudrait vivre dans un monastère pour ne pas suivre ce qui se passe. Et parfois, ce serait super, je me dis-je, de couper un peu le fil et de se mettre un peu en pause. Parce que cette réalité politique, elle est présente sans cesse. Et on ne peut pas y échapper. Mais puisque nous vivons dans un monde, quelque part, nous devons accepter la responsabilité d'y être. Et j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de contacts. Des gens très impliqués politiquement, des amis qui s'impliquent vraiment dans un travail social. Et donc qui sont vraiment en lien avec ce qui se passe sur le terrain, chaque jour, à chaque minute. Et puis on discute sans cesse et on écoute les histoires qu'ont à raconter les gens. Le problème, c'est qu'il y a tant d'histoires, tant de sujets. Il faut trouver vraiment l'histoire qui nécessite d'être racontée, d'être mise à l'écran, et qu'on la montre à un public pour que les gens sachent ce qui se passe. Et que nous puissions arriver à choisir la bonne histoire pour raconter et parler vraiment aux gens.
On va écouter un extrait de Sorry We Missed You.
Dad, where are you going?
Wind down the window.
Where are you going?
Calm down, Seven. I'm just going to the hospital for the x-ray results.
At 6:30 in the morning, are you stupid?
I'll speak to you tonight when I get back, I promise.
But what do you need to speak to me about?
We're thousands of pounds in debt, Seb. I've got fines coming out of my arse. If I don't pay them and sort it out, we're going to end up on the streets, and I'm not having that for you and your mum and Liza, so let me go.
You can't go like that, man, Dad. Look at the state of you. You've only got one eye that works. And you probably end up going to... You're going to kill yourself when you're driving.
Son, I've got to go to work. I have not got a choice.
Tam, I just want you back. The way you were. The way everything was. It's all I want.
It'll be different in 6 months, I promise.
But how do you know that?
Because I'll sort it out, I promise. Now, come on, I've got to go.
Dad, don't...
Fuck's sake, Seb, I'm going to work.
I can't let you go.
I've got to fucking
go. Dad,
go.
No, man, Dad, don't go.
I'm going.
What do you mean, oh,
I've got to go. Jesus Christ.
Get out of your
van.
I have, I've got to go.
You've got to get out of your van. You've got to get out, you can't go to work.
I'm going to work.
You can't go to work.
My God, fucking go.
Ken Loach, quelques mots sur la fin du film, hein, cet extrait où le personnage de Ricky va travailler au péril de sa santé.
Yes, well, Ricky is in a position where he has no choice.
Ricky est dans une position où il n'a pas le choix. Et pour bien des livreurs qui sont auto-employés, ils ne sont pas employés vraiment par une société, ils ne sont pas salariés. Ils doivent fournir leurs propres outils de travail, leurs propres camionnettes, ils doivent s'occuper de leur sécurité sociale. Si jamais ils sont malades, ils n'y ont aucune assurance derrière eux. Et donc, ils sont vraiment sous contrat en tant qu'indépendants. Et donc, il a emprunté beaucoup d'argent pour acheter sa camionnette. Il est donc endetté. On lui a volé un appareil électronique qui appartenait à son employeur, et donc il est encore en dette. Il ne trouve personne pour le remplacer. Et si jamais il continue, il ne va pas pouvoir payer son loyer et tout ce qu'il faut pour sa famille. Et Paul avait rencontré un de ses conducteurs, un de ses livreurs qui s'était cassé la jambe et qui continuait à travailler. Et il avait rencontré quelqu'un qui s'appelle Dom Lane, qui avait du diabète. Et qui était allé à l'hôpital pour son diabète et son employeur l'avait poursuivi. Et il avait été accusé d'absentéisme et avait dû payer une amende. Et donc il ne pouvait plus aller à l'hôpital et voir le médecin pour son diabète parce que il ne pouvait pas payer son employeur pour son absence. Et il en est mort, en fait, de ne pas être suivi. Et du coup, sa veuve et ses enfants ont dû quitter leur maison puisqu'il n'y avait plus de quoi rembourser les dettes. Et c'est ce récit qui a donné lieu à ce que l'on a écrit, alors que finalement ce qu'on écrit c'est en dessous de cette réalité-là. C'est assez modeste ce qu'on fait. Mais le système autorise les employeurs à dépenser le moins d'argent possible, à payer le moins d'argent possible leurs employés. Et le gouvernement encourage ça. Ça s'appelle la flexibilité. La flexibilité, elle est sur le dos des gens de la classe ouvrière, des livreurs qui sont vulnérables.
Alors l'idée qui est le fil conducteur de votre œuvre, Ken Loach, d'un monde qui broie, d'un monde néolibéral qui finalement va broyer la classe moyenne et la classe ouvrière, c'est évidemment le fil conducteur de votre œuvre. Et en même temps, on a le sentiment que, à la fois dans Moi, Daniel Blake, et aussi dans votre dernier film Sorry We Miss You, ce sont les nouvelles formes d'exploitation que vous dénoncez. Alors, est-ce que c'est justement en révélant les nouvelles formes que le cinéma agit comme un révélateur des changements de cette exploitation-là?
Oui, ça me semble vrai. J'ai l'impression qu'on est maintenant un moment, mais ça fait un moment que ça arrive. Hein. Ça fait 40 ans. Tout ça, c'est le rêve de Margaret Thatcher, que chaque individu n'ait aucune protection sociale, que la loi oblige les syndicats à rester faibles et que les travailleurs restent à la merci de leur employeur. Ça, c'est le rêve de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, et il devient réalité. Donc on en est à une époque et à un niveau vraiment catastrophique aujourd'hui. Où donc le capitalisme va-t-il nous mener? Quelle est la prochaine étape? Il s'agit de crucifier la classe ouvrière. Les gens vraiment ne vivent que sur des allocations. Où est-ce que ça va être? Où est-ce que ça va aller après? Parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est temps d'être bouleversé par ce qui se passe. Et de vraiment creuser pour vraiment se rendre compte. Il s'agit certainement de changer complètement la politique, et c'est un travail énorme. Mais quand les travailleurs travaillent ensemble, dans des unités sociales, parce que là, aujourd'hui, le travail, il est fragmenté, et les gens ne sont plus ensemble. Les nouvelles technologies ont été utilisées pour séparer et éloigner les gens qui travaillent ensemble. Et le problème, c'est que la gauche ne s'est pas attachée, ne s'est pas mise au travail pour essayer de faire fonctionner le marché aujourd'hui d'une façon sociale. On parle d'un marché social, mais le marché social, c'est finalement ce qui détruit le social. Et donc, la gauche doit absolument trouver le moyen de transformer la politique. Car c'est ça la réalité finalement politique. C'est la bataille, c'est la lutte des classes. Et je pense que politiquement, nous perdons maintenant tout le temps, tous les jours. C'est une période vraiment dangereuse que nous vivons.
Ken Loach, vous évoquiez la question du système de santé publique au Royaume-Uni notamment. La question du Covid, l'arrivée de la Covid, a remis en cause encore plus cette histoire de système de santé britannique.
It challenged an NHS, a National Health Service.
Effectivement, le virus est arrivé à un moment où notre système de santé était en train d'être détruit. Et le NHS, notre système de santé, n'a jamais été soutenu et le gouvernement ne cesse d'enlever ses investissements. Et ce sont des entreprises privées qui finalement tiennent lieu et prennent une plus grande partie à l'intérieur de ce système public. Et ça devient finalement une agglomération de sociétés privées qui emploient des gens avec par des contrats courts. C'est du travail très peu payé pour un résultat moindre. Et cette crise sanitaire ne fait qu'aggraver cette situation et de la Les tests ont été un désastre chez nous. Tout a été un échec, complètement. Les politiques, on en parle encore aujourd'hui, mais ça n'existe toujours pas. Nous n'avons pas de tests. Et le NHS essaie de survivre au virus, mais le gouvernement continue à ne n'allouer des budgets qu'à des sociétés privées. Donc, ils mettront forcément le profit au premier plan. Donc, il ne s'agit pas tellement, finalement, pour eux, de mettre fin à la crise sanitaire. C'est simplement de calculer des profits. Donc, je ne critique pas tellement la NHS moi-même. Je critique la façon dont cette économie malheureuse, ce qu'elle fait de nos travailleurs sociaux, des gens qui travaillent à la santé. Et c'est le profit privé qui vraiment est encouragé à tous les niveaux.
Ken Loach, quand on vous a demandé quelle carte blanche vous nous avez proposé, la chanson Dirty Old Town, alors on va l'écouter tout de suite.
I found my love on the gasworks cross. dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. I heard a siren from the dark. Saw a train set the night on fire. Smelt the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Clouds are crawling across the sky. Cats are prowling upon their beak. Spring's a girl in the street at night. Dirty old town, dirty old town. I'm going to make a good sharp eye. Shining steel tempered in the fire will chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town.
Dirty Old Town par Ewan McCall. Pourquoi ce choix, Ken Loach?
C'est la description d'une ville industrielle qui vraiment ressemble à celle où j'ai grandi. Des petites maisons, la fumée qui sort des cheminées, avec les barges qui passent et qui transportent le charbon. Ça, vraiment, ça, c'est une réminiscence très forte pour moi de ce qu'était mon enfance. McCall, c'était quelqu'un qui était né dans une partie qui est aujourd'hui près de Manchester et qui, c'est tout à fait les Midlands finalement, et c'est cette région dans laquelle j'ai grandi, et ça, c'est très évocatif pour moi, très évocateur. Et les images que ces mots peuvent révéler et m'amènent, ça me rappelle vraiment mon enfance dans les années 40, quoi.
Merci beaucoup, Ken Loach.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Et la grande table d'été continue en compagnie d'Ophélie Siméon, maîtresse de conférence en civilisation britannique. Bonjour.
Bonjour.
Alors ces questions abordées par Ken Loach, elles illustrent évidemment son engagement, mais elles reflètent aussi tout un tas de mouvements de contestation qu'on a pu entendre assez fortement au Royaume-Uni, d'autant plus depuis la crise sanitaire, Ophélie Siméon.
Oui, tout à fait. La crise sanitaire a en fait... remis au premier plan des tensions structurelles. Ken Loach mentionnait le démantèlement du système de santé publique, qui est une réalité depuis l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir en 1979. Lors du gouvernement Cameron, on a eu d'énormes mouvements de grève dans l'hôpital public, notamment les jeunes internes en médecine, et récemment en Irlande du Nord, une grève des infirmières qui protestaient contre des coupes drastiques dans leur salaire. On a également une fracture au sein des quatre nations qui composent le Royaume-Uni. Donc on parle souvent de l'Angleterre
Il ne faut pas oublier l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles.
Tout à fait. Et la crise du Covid a mis à jour des divisions extrêmement profondes qui recoupent en partie le vote, le rejet du Brexit, puisque l'Écosse et l'Irlande du Nord ont dit très clairement non. Et puis aussi, la crise du Covid a révélé au grand jour des tensions raciales extrêmement profondes, puisque l'immigration ethnique en Grande-Bretagne comme aux États-Unis ou ailleurs sont en moyenne deux fois plus touchées que le reste de la population, et on a une convergence très forte entre le mouvement Black Lives Matter en Grande-Bretagne et une opposition croissante au gouvernement Johnson et à sa gestion de la crise.
Alors Ken Loach, il a donné des interviews pendant le confinement notamment, et il a parlé d'abord de ce premier point que vous avez abordé, c'est-à-dire la question de la privatisation du système de santé. Alors Ken Loach, il ne se situe pas n'importe où politiquement, il est militant pour le Labour Party, d'ailleurs il a même réalisé un film pour le Labour Party. Je vous propose d'abord d'en écouter un extrait.
Do you accept inequality and injustice in society?
Est-ce que vous acceptez que l'inégalité et l'injustice règnent dans une société? Est-ce que vous acceptez que des personnes soient à la rue? Est-ce que vous acceptez l'écart énorme entre les plus riches et les plus pauvres? Ou est-ce que vous agissez?
We will ensure everyone in work has the right to join a trade union.
Nous garantirons que toute personne qui travaille ait le droit de se syndiquer, le droit d'être représentée, le droit de prendre des vacances, le droit à des conditions de vie décentes et à un salaire honnête. Donc nous garantirons un salaire minimum de 10 pounds de l'heure pour tout le monde dans ce pays.
If we don't invest in training nurses for the future, so the loss of the nurse bursary means that there's fewer nurses.
Si nous n'investissons pas dans la formation des infirmières pour le futur, la disparition des bourses pour les infirmières signifie qu'il y aura de moins en moins de personnes qui voudront devenir infirmières à l'avenir. Ajoutez à ça le coût élevé des formations médicales à l'université. Tout cela signifie que vous dissuadez les gens de suivre cette voie. Que notre NHS nous soit rendu, un système de santé national géré par la puissance publique, financé par de l'argent public, qui emploie des fonctionnaires, et non un marché intérieur libéral.
Ophélie Siméon, c'est Jérémy Corbyn qu'on vient d'entendre. Donc c'est un film réalisé en 2017 par Ken Loach pour le Labour Party. Donc évidemment, il faut resituer quand même son engagement politique à Ken Loach, et notamment sur ces questions-là qui sont celles du système de santé qu'on appelle le NHS.
Oui, Ken Loach fait partie de ce qu'on appelle le Old Labour. Il faut savoir que le parti travailliste en Grande-Bretagne est scindé en deux. On a le vieux Labour qui est représenté par Jeremy Corbyn, donc l'ancien leader, Ken Loach, et qui est une gauche, on va dire, proche des syndicats, proche aussi de l'ADN du Parti travailliste qui a été fondé en 1900 pour défendre les droits des travailleurs et notamment des ouvriers en usine. Et on a d'un autre côté le New Labour, donc qui a été propulsé sur le devant de la scène politique par Tony Blair, et ensuite qui a été incarné par le Premier ministre suivant Gordon Brown. Et c'est un socialisme, un néo-socialisme dit de la troisième voie, donc qui est un socialisme néolibéral sur le plan économique et qui se veut socialisant sur les questions de santé publique, mais qui en fait a complètement répété les politiques qui avaient été mises en place sous les de privatisation mises en place sous les gouvernements Thatcher et Major.
Alors, donc, c'est vrai que ce que l'on voit dans les films de Ken Loach, à la fois dans Moi Daniel Blake, mais aussi qui est l'histoire d'un menuisier qui ne peut plus travailler parce qu'il a des problèmes de santé et qui en réalité est déclaré apte au travail et va se retrouver dans une sorte de folie administrative qui va à la fois faire qu'il ne peut pas travailler et qu'en même temps il ne peut pas toucher son allocation. Le système sera aussi abordé dans Sorry We Missed You, puisque la femme est une aide à domicile pour les personnes âgées. Toute cette question de l'état de santé du système de santé, si je puis dire, et la question de son démantèlement est abordée.
Oui, et ce sont des questions en fait qui sont abordées depuis les années 80, depuis les années Thatcher. Ce sont des questions qui ne datent pas d'hier, mais le problème s'est aggravé depuis les politiques d'austérité qui ont été mises en place à partir du gouvernement de David Cameron au lendemain de la crise, donc 2007-2008. Et aujourd'hui, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, premièrement, le NHS, donc le National Health Service, le système de santé publique, est sous-financé de manière chronique. C'est très difficile, en effet, vu en plus le coût des études, de devenir infirmier ou infirmière. Et donc, l'alternative qui est promue par les gouvernements, c'est un système de santé alternatif, privé, mais qui repose sur une main-d'œuvre extrêmement précaire. C'est ce qu'on appelle, en Grande-Bretagne, on a énormément de zero-hour contracts, donc littéralement des contrats à zéro heure, c'est-à-dire que vous n'avez pas de...
Il n'y a pas de limite.
Voilà, donc vous êtes taillable et corvéable à merci. Et donc, plus la main-d'œuvre est précaire, plus c'est facile de mettre en place ce genre de contrats. Ce sont des contrats qu'on retrouve dans le monde universitaire aussi. Et par exemple, pour tout ce qui est aide à domicile, travaux, toutes les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, eh bien, on est typiquement dans ce cas de figure où la santé va être sous-traitée à des prestataires privés qui vont en fait ubériser une main-d'œuvre extrêmement précaire et souvent d'origine étrangère.
Alors là, c'est en réalité la question des contrats quasiment d'intérim que l'on va trouver. Hein. C'est la question qui est abordée aussi dans Sorry We Missed You, la question de sa femme. C'est-à-dire que c'est à la fois un zéro horaire, mais en même temps des salaires très bas et oui. Un emploi qui est plus que précaire. C'est même à la mission quasiment.
Oui, tout à fait. Le droit du travail en Grande-Bretagne, il y a beaucoup moins de garanties vis-à-vis des travailleurs qu'en France, par exemple. L'idée du salaire minimum, l'idée du SMIC est très récente. Elle a été introduite par le gouvernement Blair, si mes souvenirs sont bons, aux alentours de 2008, à la suite de divers mouvements de grève. Mais donc l'idée vraiment d'un salaire minimum, c'est pas du tout quelque chose qui est commun en fait au Royaume-Uni. De la même façon, l'idée des 35 heures, par exemple, c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie de leur culture.
Alors, on parlait des différentes crises que traverse le Royaume-Uni et du fait que ces films sont en réalité aussi des révélateurs. Alors, il parle aussi en filigrane des conséquences du Brexit à venir, pas encore tout à fait consommées. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces questions-là? Vous venez d'aborder la question des questions nationalistes qui ont été évoquées avec, des relents nationalistes et parfois xénophobes. Qu'est-ce qu'on peut dire des mouvements sociaux et des mouvements qui se sont animés autour de cela? Alors, je pense notamment, vous parlez des échos à Black Lives Matter. Qu'est-ce qu'on a pu entendre comme réaction face à ces élans nationalistes ou xénophobes?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vis-à-vis du le vote pro-Brexit en Angleterre, là je vais uniquement parler de l'Angleterre, c'est un vote en fait qui recoupe la montée du nationalisme anglais. Puisque
quand vous dites anglais, c'est parce que vous
parle anglais. Oui, je distingue l'Angleterre
des Écossais et des Gallois.
Parce que depuis 1998, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord sont semi-autonomes politiquement. C'est ce qu'on appelle la dévolution. C'est une politique qui a été mise en place par le gouvernement Blair. Et la conséquence a été une montée en puissance du nationalisme proprement anglais avec la montée du UKIP. Et on a en effet une montée de la xénophobie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le personnel de santé, dans le NHS, vous avez énormément d'aides-soignantes et d'infirmiers et d'infirmières qui sont d'origine étrangère, notamment des gens qui viennent de Pologne, de Roumanie ou de Lituanie, et ce sont des gens qui ont été victimes de nombreuses agressions à la suite du Brexit. Et le mouvement Black Lives Matter en Grande-Bretagne, Il recoupe en fait un effet de ras-le-bol vis-à-vis d'un racisme institutionnel
qui concerne notamment des immigrés de l'Union européenne en fait, hein, qui sont venus travailler au Royaume-Uni.
Tout à fait, mais aussi et également des personnes qui sont d'origine jamaïcaine. Il y a une très très importante communauté jamaïcaine en Grande-Bretagne, et qu'on a fait venir dans les années 50, c'est ce qu'on appelle la génération Windrush, du nom du bateau en fait qui a amené cette première vague d'immigrés jamaïcains pour participer à la reconstruction du pays après la guerre. On leur avait promis en échange l'accès à la citoyenneté britannique, et eh bien on leur a dit que finalement non, ils n'avaient pas la citoyenneté britannique et qu'il fallait retourner, je cite, d'où ils venaient, c'est-à-dire bien souvent dans la Jamaïque, en Jamaïque, qui était bien souvent une île que ces personnes ne connaissaient
plusieurs
pas.
Plusieurs générations.
Oui, deux voire trois générations plus tard.
Alors ce qu'on entend chez Ken Loach et dans les prises de position qu'il a pu prendre, c'est que le Brexit, ça a été finalement une sorte de cache-sexe d'une certaine manière, qui a fait remonter un certain nombre de problèmes sociaux du Royaume-Uni qui allaient revenir à la face des pouvoirs publics en réalité. Donc cette question de la pauvreté, ces questions des salaires bas, des dérégulations, qui en réalité n'allaient pas se retrouver comme ça réglées de par le départ de l'Union européenne.
Oui, tout à fait, puisque donc la Grande-Bretagne a officiellement, le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 31 décembre dernier, mais on est encore dans une phase de transition jusqu'au 31 décembre 2020, et il y a encore des négociations, puisqu'il y a des points d'achoppement qui n'ont pas été réglés, notamment la question des relations économiques et commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE. Va-t-il y avoir un accord de libre-échange un peu sur le même modèle que ceux qui existent entre l'UE et la Norvège ou la Suisse? C'est encore une question qui reste ouverte. Et ça, c'est une question d'autant plus épineuse que la Grande-Bretagne est en récession et la crise du Covid a bien entendu fait exploser cette récession de manière encore plus évidente.
Alors, je vous propose d'écouter la bande-annonce de Moi, Daniel Blake. C'est le film de 2016 de Ken Loach.
Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance. Can you walk more than 50 metres?
Yes.
Can you raise either arm as if to put something in your top pocket?
Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified?
I've had a major heart attack.
I've been told by my doctor that I'm not supposed to go back to work yet.
I'm afraid you must continue to look for work or your benefit payments will be frozen.
There must be some mistake.
If you've been deemed fit for work, your only option is job seeker's allowance.
Well, I want to appeal.
You have to apply online, sir.
I was a carpenter. I've never been anywhere near a computer.
So you need to run the mouse up the screen. No.
Not now?
No, not like that.
I'm just going round in circles.
I'm going to have to ask you to leave.
I'm trying to explain to you a situation and you don't care.
I've got about 12 quid in my purse.
Do you know what? You've created a scene, all right?
Jesus Christ!
What am I supposed to do?
Who's first in this queue?
I am.
Do you mind if this young lass signs on first?
No, you carry on.
This isn't your concern. I want you to get out as well. It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. And all it does is humiliate me.
You've done nothing to be ashamed of. You're alone with two kids. You've done amazing.
I've seen it before. Good people on the street. You could lose everything.
Well, I'm not going to give up. When you lose your self-respect, you're done for. Yeah!
Au Ophélie Siméon, ce que nous donne à voir ce film, moi, Daniel Blake, de Ken Loach, c'est aussi les relations entre les générations. Il y a cet homme d'un certain âge qui ne peut plus travailler et qui se retrouve dans un système absurde avec l'administration. Et de l'autre côté, il y a une jeune femme qui, elle aussi, est en difficulté. Ils vont s'entraider. Cette transformation des problématiques liées au travail, aux conditions de travail, et cette transformation en réalité des luttes de la gauche anglaise, elle est extrêmement décrite extrêmement précisément par le cinéma de Ken Loach. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces mouvements qui l'accompagnent, de la gauche? Comment est-ce que la gauche se réapproprie ces questions-là, notamment économiques?
Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que la gauche et notamment son principal représentant au Royaume-Uni qui est le Parti travailliste, c'est un parti qui est quand même relativement en crise depuis qu'il a perdu les élections et que donc les conservateurs sont revenus au pouvoir avec David Cameron en 2010. Et c'est une gauche en fait qui peine à trouver une identité entre ses tendances Old Labour, donc vieux travailliste, et New Labour. Et en plus, notamment en Écosse, et aussi en Irlande du Nord, il y a toute une partie de l'électorat en fait qui s'est désolidarisée du Parti travailliste à partir de son virage néolibéral avec les gouvernements Blair. Et
déconnexion entre les votants. Oui. L'origine sociale ne détermine plus le vote dans ces régions-là.
Exactement. Et on a eu en fait une migration du vote de gauche traditionnel dans ces régions-là vers les partis indépendantistes, donc le SNP en Écosse et aussi en Irlande du Nord, le Sinn Féin, qui est le parti qui réclame la réunification. Alors qu'en Angleterre, très souvent, le vote protestataire des classes ouvrières va plutôt se tourner vers le parti conservateur ou le UKIP, donc le parti anti-européen, pro-Brexit. Donc c'est une gauche qui est quand même relativement en crise. Mais après, on a un sang neuf en fait qui est insufflé avec des mouvements de jeunes. Donc c'est ce dont ma collègue Sarah Picard parlait un petit peu hier, donc elle vous en parlerait sans doute beaucoup mieux que moi. Mais donc ce sont des jeunes qui n'appartiennent pas forcément, qui sont pas forcément encartés, même si Jeremy Corbyn a eu beaucoup de soutien de la part des jeunes travaillistes, mais ce sont des jeunes qui vont s'engager dans des mouvements pour l'écologie.
Donc, qui représente une forme de contestation du capitalisme.
Oui, absolument,
aujourd'hui,
absolument. Et par exemple, donc ça étonne les gens quand tu leur parles de ça, parce que beaucoup de personnes ont l'image des Britanniques qui boivent beaucoup de bière, qui font la fête au pub. Et on a une baisse très forte de la consommation d'alcool chez les jeunes en Grande-Bretagne, et c'est en lien avec une montée des revendications écologistes et une popularité croissante du végétarisme et du véganisme. Voilà.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Ken Loach, lui, propose une sorte de synthèse entre ce Old Labour et ce New Labour, puisque, en réalité, en décrivant l'histoire de Daniel Blake et en même temps, on le voit taguer les murs en signe de révolte à la fin du film, on voit un clin d'œil à la fois aux anciens et aux nouveaux modes de contestation qu'on peut observer aussi au Royaume-Uni.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir la relation d'amitié et d'entraide qui se crée entre cet homme relativement âgé et cette femme, cette jeune mère de famille qui est beaucoup plus jeune. Et c'est vrai que de le voir taguer un mur en signe de protestation, ça rappelle moi, ça me rappelle les travaux de l'artiste de rue Banksy, qui est basé à Bristol, donc une ville où le mouvement Black Lives Matter a été très présent, puisque c'est un ancien port esclavagiste.
Il a fait d'ailleurs des portraits de George Floyd récemment.
Tout à fait, et il a également tagué des rats, donc c'est sa marque de fabrique, le rat, des rats portant des masques dans le métro de Londres.
Alors, je vous propose d'écouter, pour revenir à la question du Brexit, Michel Barnier. Alors, en anglais, c'est un peu atypique, mais on va l'entendre maintenant.
D'abord, nous avons dû organiser et mener à bien ce Brexit. Ce que nous avons fait, le premier round est terminé. Maintenant, nous devons tout reconstruire. Cette négociation n'est pas habituelle, parce que, à la fin de cette année, comme le Royaume-Uni quitte le marché unique, c'est son choix, et quitte l'union douanière, si nous ne trouvons pas d'accord, il n'y aura pas de statu quo. Nous devons nous préparer au risque d'une rupture, en particulier pour le commerce.
Alors, c'était en janvier 2020, Ophélie Siméon, outre passer la blague de l'accent, qu'est-ce qu'on peut dire de ces enjeux du Brexit avec ces accords qui sont encore à trouver avec l'Union européenne? On a eu le sentiment, alors Ken Loach lui dit, ça a été un débat entre la droite et la droite. La droite qui s'est dit qu'elle allait faire plus d'argent à l'intérieur du marché européen et celle qui pense qu'elle va en avoir encore plus en dehors. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des accords qui doivent se passer justement en dehors de ses opinions à lui?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que les négociations autour du Brexit, elles sont complètement dans l'impasse. Une des raisons principales, c'est que Boris Johnson, Michel Barnier et un certain nombre de membres du gouvernement Johnson ont attrapé le Covid-19 au printemps. Et donc les négociations ont été annulées à cause de ça. Il y a eu une cinquième table ronde. Une cinquième table ronde de négociation est prévue pour la semaine prochaine. Michel Barnier doit se rendre à Londres, je crois. Et il y en a une sixième prévue en août. Mais pour l'instant,
il faut que ce soit d'ici la fin de l'année.
La date butoir, c'est le 31 décembre. Et a priori, il n'y a aucune période d'extension qui est prévue. Mais vu le contexte du Covid. On voit mal dans quelles conditions on pourrait trouver un accord, surtout que les deux parties restent campées sur leur position. Le gouvernement Johnson souhaite un accord de libre-échange qui garantisse son indépendance économique et politique, donc c'est-à-dire un accord de libre-échange qui permettrait à la Grande-Bretagne de bénéficier des avantages du système de l'union douanière, des facilités à faire du commerce au sein de l'Union européenne, mais elle souhaite en même temps avoir un accord commercial avec les États-Unis.
Alors là, c'est vrai que c'est une manière presque de questionner à nouveau la relation spéciale. Mmh. On a pu penser que pendant longtemps, finalement, il y avait quand même une relation un peu privilégiée avec l'Union européenne, du point de vue du Royaume-Uni. Et puis finalement, c'est un retour presque américain, en tout cas de ce point de vue-là. Et aussi peut-être avec des pays qui sont des anciens pays du Commonwealth, d'un point de vue commercial, hein, une recherche d'intérêt de ce côté-là, du côté britannique.
Oui, alors c'est ce que la Grande-Bretagne essaie de faire. En effet, la relation spéciale, en fait, n'a jamais disparu, mais elle varie en fonction de la personnalité des dirigeants. Entre Boris Johnson et Donald Trump, les rapports sont plutôt cordiaux. Donc, le gouvernement britannique espère toujours avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis. Mais beaucoup de personnes y sont opposées au sein du Royaume-Uni parce que ça veut dire ouvrir le marché britannique à des produits qui sont jusqu'ici interdits par l'Union européenne, c'est-à-dire le bœuf aux hormones et le poulet chloré. C'est essentiellement ces deux choses qui font.
Donc avec d'autres enjeux éventuellement sanitaires.
Tout à fait. Donc c'est sûr que en termes de communication politique en période de Covid, c'est pas des sujets qu'il faut aborder en ce moment. En ce qui concerne des partenariats avec les anciens pays du Commonwealth, avec les anciennes colonies qui font désormais partie du Commonwealth. C'est une perspective qui ne va sans doute pas se réaliser. Theresa May avait tenté d'établir des accords avec l'Inde et elle a été absolument snobée.
Alors on en connaît les raisons?
Oui, c'est parce que c'est une manière de prendre pour le gouvernement ultranationaliste de Narendra Modi de prendre une revanche vis-à-vis de l'ancienne puissance colonisatrice. L'Inde est un pays émergent et c'était une manière de dire qu'on n'avait plus besoin de l'ancien colonisateur. On peut se débrouiller, on peut être indépendant économiquement.
Alors cette opposition, on a pu la connaître dans d'autres pays, notamment l'Irlande et l'Écosse. Ça fait partie aussi du cinéma de Ken Loach de parler aussi, pas simplement de l'Angleterre, mais aussi de l'Irlande, alors de son passé, de l'Irlande du Nord ensuite, et puis de l'Écosse, dans Be Happy notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces questions-là, d'opposition au sein du Royaume-Uni? Il y a eu beaucoup d'oppositions marquées aussi, et des différences dans la manière d'appliquer les normes sanitaires et de rester confiné dans ces pays-là au moment de la crise de la Covid.
Tout à fait.
Ophélie Siméon.
Donc, il y a des divergences fondamentales entre les quatre nations qui composent le Royaume-Uni. Elles sont très anciennes. La raison étant que le Royaume-Uni n'est pas un État fédéral, c'est-à-dire que les quatre nations n'ont pas le même statut. Il y a une nation qui reste dominante politiquement, économiquement, diplomatiquement, c'est l'Angleterre. Et c'est quelque chose, c'est un État de fait que les trois autres nations, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, ont quand même du mal à accepter. Et en fait, pour rappel, l'Écosse et l'Irlande du Nord se sont prononcées très clairement contre le Brexit. Et la crise du Covid n'a fait que renforcer ces divisions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc depuis 98, depuis que Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord sont semi-autonomes, depuis 98-99, le système de santé publique dépend des gouvernements locaux. Donc il y a bien sûr des directives qui sont données par le gouvernement central à Londres.
Mais différentes manières de...
Voilà, mais ensuite ce sont les nations qui l'appliquent et il y a eu des divergences extrêmement profondes.
Et on va devoir en rester là. Je vous remercie beaucoup, Ophélie Siméon. Je renvoie nos auditeurs à la vie des idées. Merci aussi à Ken Loach et bien sûr à Harold Manning qui a assuré la traduction. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Sureau.
Nous voici donc devant le Moulin Rouge, place Blanche, au kilomètre 256 de notre remontée de Source Seine jusqu'à la mer. Lâchez tout, partez sur les routes, disait André Breton, et c'est ce que nous avons fait, Vincent, qui est en face de moi, avec son micro et son air sourcilleux quand je m'égare, et moi. André Breton a habité à deux pas d'ici, au 42 de la rue Fontaine, dans un appartement semé de fétiches, de son extraordinaire collection de bénitiers et des tableaux des peintres surréalistes qui furent ses amis. C'était l'un des lieux les plus poétiques et les plus étranges de Paris. On voit sur le mur du 42 rue Fontaine, juste derrière nous, là, en descendant, une plaque qui rappelle les dates de naissance et de mort d'André Breton, avec cette phrase « Je cherche l'or du temps » qui figure aussi sur sa tombe du cimetière des Batignolles. Breton vivait rue Fontaine et a vécu rue Fontaine, mais il vivait aussi, surtout, dans les cafés avec son groupe. Et cette vie a été décrite par de nombreux auteurs, par de nombreux témoins. Elle a été décrite par Nadeau, elle a été décrite même par Gracq. Et cette vie de café m'a longtemps fait rêver. Et c'est à deux pas de l'endroit où nous sommes, derrière la place Blanche, au Café Fontaine, qu'il a lu Nadja pour quelques amis en novembre 1927. Au moment où il le lit, d'ailleurs, c'est une histoire assez triste, mais la véritable Nadja, qui s'appelait Léon Delcourt, était à l'asile depuis 6 mois après avoir écrit à Breton une lettre où on pouvait lire « Comment avez-vous pu écrire de si méchantes déductions de ce qui fut nous sans que votre souffle ne s'éteigne ?» Elle sera transférée dans un autre asile du Nord où elle devait mourir de malnutrition et d'épuisement en 1941, « Dis-moi qui te hante et je te dirai qui tu es ». Avec le Café Fontaine, il y avait le Café Cyrano, comme Cyrano de Bergerac, qui s'élevait juste en face de là où nous sommes. Il a été remplacé par ce que nous voyons devant nous là, et qui est un Quick, qui vend des Quality Burgers. Quand on regarde les photos d'époque, on s'aperçoit que le Quick, enfin je veux dire le café, le Cyrano, avec une énorme enseigne rouge qui écrasait même l'enseigne du Moulin Rouge, c'est-à-dire si c'était spectaculaire, que le Cyrano était entouré par 3 cabarets. Le ciel, l'enfer et le cabaret du néant. Au ciel, on était accueillis par des anges, qui n'ont commencé pas de sexe. À l'enfer, on était accueillis par des démons, car les anges maléfiques sont des femmes, au moins pour les surréalistes. Et quant au néant, on n'en sait rien, ce qui est bien normal. Tout ça a disparu. La porte du ciel est devenue, on la voit en face de nous, celle d'un monoprix. L'enfer a été remplacé, ce qui est bien normal aussi, par un sex shop. Et il n'y a plus de traces du néant, à moins que le néant ne soit en réalité partout autour de la place Blanche. Et c'est ici, au Cyrano, qu'a lieu l'épisode dont je voulais vous parler ce matin et qui est le célèbre épisode des pois sauteurs, ce qu'on appelle la querelle des pois sauteurs. La scène se passe un matin de décembre 1934. Breton et ses amis sont au café Le Cyrano et Roger Caillois, qui fut un très grand écrivain de ce temps, montre à Breton une petite boîte avec dans la boîte des pois, comme des pois chiches, quoi, comme des petits pois. Et ces pois sont animés de mouvements incontrôlables. Ils s'agitent à l'intérieur de la boîte en faisant des petits bruits. Ces pois viennent du Mexique. Alors Breton est évidemment séduit par les pois et par l'origine mexicaine des pois. Breton a toujours aimé le Mexique. C'est là qu'il a rencontré Trotsky, dont en politique il s'était fait le disciple, et le Mexique est devenu, après la Russie, la patrie rêvée des surréalistes, comme d'ailleurs la patrie rêvée d'un certain nombre de personnalités de la gauche française. Pendant longtemps, disait Jean Plumienne, les socialistes français, du moins les socialistes de l'extrême, enfin ceux qui sont en façon Ushuaïa, sont restés un peu mexicains, guérilleros, zapatistes et matière brute. On en voit par exemple les traces ultimes dans l'œuvre de Le Clésio. Je reviens aux pois. Ah, les gens de ma génération ont connu ces pois plus tard. Peut-être que même Vincent, qui sourit en écoutant, a également connu ces pois, car ces pois étaient distribués par un journal du Parti communiste qui s'appelait PIF. Et donc PIF distribuait les pois. Nous voilà donc en 1934, un peu avant PIF. Et tout de suite, Caillois et Breton s'opposent à propos de ces pois avec une rare violence. Caillois veut les éventrer à la pointe de son opinel pour trouver une explication au mystère. Breton, évidemment, s'y oppose au nom du mystère, car si on les éventre, toute la poésie du monde disparaît avec cette éventration. On est tout près d'en venir aux mains. Le tiers de l'assistance prend le parti de Caillois, les deux tiers de l'assistance prend le parti de Breton, des cris, des insultes fusent, une alternance de glaciation bretonienne et d'éructation générale. Bref, à la fin, on se sépare, les pois continuant de vivre sur la table de leur vie mystérieuse en secouant la boîte d'allumettes où Caillois les avait rangés. Il y a évidemment quelque chose de très touchant dans cette querelle absurde. Et ce quelque chose tient, à mon avis, à l'amitié des surréalistes. Cette amitié qui est réelle s'organise autour d'une absence dont, au fond, Breton n'est que le vicaire. Le surréalisme est un sacrement daté, et je pense que Breton avait compris qu'ouvrir les proies détruirait, et son rôle est plus important, l'amitié elle-même. Le mystère était nécessaire à André Breton. Mais à présent qu'André Breton est mort, je peux bien maintenant vous donner l'explication du mystère sans le compromettre ni l'avenir du mouvement surréaliste. Et cette explication est assez simple. Un papillon des montagnes du Chihuahua, au Mexique, qui s'appelle le Carpocarps des euphorbiacées, pond ses vers dans une euphorbe d'une plante. Après l'éclosion, les larves bougent dans le pois, donnant l'impression de la vie. On dirait en effet une métaphore du mouvement surréaliste lui-même. À présent que le temps a passé, évidemment, j'en parle avec un peu d'ironie et j'ai tort. J'ai tort parce que devant le Cyrano, entre le Cyrano et le 42 rue Fontaine, dans ce Paris de la Place Blanche, qui a été l'un des centres du mouvement surréaliste, avant de se répandre d'ailleurs sur toute la surface de la Terre, ou une large partie de cette surface, je me souviens du mouvement que le surréalisme a provoqué chez moi, comme chez tant d'autres. Ce sentiment d'un au-delà des apparences, ce sentiment d'un même fluide électrique qui parcourait les œuvres et les vies de Breton, de Desnos, de Magritte, de Buñuel, et au fond, je resterai jusqu'au bout le frère de ces milliers de débutants qui, de 1920 à 1980, se sont passionnés pour le bric-à-brac des grands ancêtres empaillés, pour le souvenir de Vacher, pour les arts premiers, les regards impérieux, les muses à gants noirs, et la grande incertitude de tout, et même les pauvres femmes comme cette Nadja qui s'appelait Léone Delcourt et qui est morte dans l'indifférence générale. Et devant la façade de ce couic qui s'élève maintenant devant nous comme un blasphème, je pense à cette île de Pâques que le surréalisme a fait jaillir sous nos yeux. Et je pense à ce que disait l'un de leurs tracts au moment de la première révolution surréaliste. Parents, racontez vos rêves à vos enfants.
Et Et vous retrouverez François Sureau lundi, ainsi que la grande table d'été consacrée aux monstres avec Enki Bilal. L'émission d'aujourd'hui était préparée par Chouchane Djergaillan, Lou Quevauvillier, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Marie Placé, à la technique Jérémy Kaufmann. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.